Dans un hôpital de Cincinnati, aux États-Unis, les patients meurent à un rythme alarmant.
Un jour, ils allaient. Le lendemain, c'était fini.
Les infirmiers tentent en vain de savoir ce qui emporte leurs patients.
Vous pouvez en regarder un dans les yeux et voir qu'il était en train de mourir. On se disait, mais qu'est-ce qui arrive ?
Il y a de plus en plus de décès inexpliqués, sans que l'on sache quoi faire pour les arrêter. Il faut résoudre le mystère avant qu'il n'y ait d'autres victimes. Cincinnati, dans l'Ohio, en 1986. Dans un hôpital de soins de longue durée, Clyde Douglas est pris d'une douleur inexplicable à la poitrine. Il est victime d'une défaillance respiratoire.
Okay, we're being fair, let's shock him. I'm charging.
Puis son cœur s'arrête.
Clear.
L'équipe de soins fait tout pour le sauver, mais en vain. Clyde Douglas est mort.
Il est parti comme ça. Ça n'a pas pris plus de 20 minutes. Une demi-heure au maximum.
C'est difficile à accepter pour les infirmiers qui s'occupaient de lui. Clyde Douglas n'est pas le premier patient de l'hôpital à mourir mystérieusement suite à un arrêt respiratoire.
Un jour, il se portait parfaitement bien et le lendemain, il décédait subitement, de façon inattendue.
L'établissement abrite les patients les plus malades de la ville, mais même dans cet hôpital où l'on a l'habitude de côtoyer la mort, ces décès sont suspects.
Les patients ne présentaient aucun symptôme qui nous aurait indiqué que quelque chose de grave s'annonçait.
Comment les infirmiers peuvent-ils protéger les patients dont ils ont la charge si ceux-ci meurent aussi subitement sans raison? Le 8 juillet 1986, des ambulanciers sont dépêchés sur la scène d'un accident. John Powell, 44 ans, a été frappé par une voiture alors qu'il se rendait au travail à moto. Quand les ambulanciers arrivent sur les lieux, Powell est inconscient. Il a subi d'importantes blessures à la tête et à la poitrine. Même si l'hôpital n'est qu'à quelques minutes de là, ses chances de s'en sortir sont minces. À l'hôpital, les médecins se préparent à l'arrivée de ce patient victime de traumatisme majeur. Powell, qui ne portait pas de casque, s'est fracassé la tête sur le béton. Il a ensuite été traîné sur l'asphalte, ce qui lui a causé de nombreuses écorchures. Son crâne se met bientôt à enfler. Les médecins savent que s'il n'opère pas immédiatement John Powell pour atténuer la pression, il va mourir. On avise sa femme de son état.
Quand je suis arrivée à l'hôpital, on opérait John. On m'a informée de la situation et annoncé que c'était une question de vie ou de mort. Heather, ma fille aînée, a failli s'évanouir, alors que Holly, ma cadette, était presque hystérique. Mon fils, lui, était sans voix.
Miraculeusement, John Powell survit à son opération et on le transfère à l'unité des soins intensifs. Pour Patricia, c'est un choc de voir son mari dans cet état.
Il était l'assistant du chef scout. Il adorait la nature, le camping et la moto. Il était solide comme le roc.
Les semaines passent et Powell est toujours aux soins intensifs. Son état ne s'améliore pas. Selon ses médecins, s'il ne se rétablit pas bientôt, il devra être transféré à l'hôpital de soins de longue durée, celui-là même où ont eu lieu la série de morts mystérieuses. On y soigne les malades chroniques, les vieillards et les patients paralysés ou dans le coma.
Très peu de patients à cet hôpital pourraient un jour en sortir vivants. La plupart d'entre eux étaient plutôt menés à la morgue.
Dans la perception du public, c'était un mouroir en quelque sorte.
Mais même à cet endroit où la mort est souvent au rendez-vous, le nombre de défaillances respiratoires des dernières semaines est alarmant.
Je descendais 3 corps à la morgue par semaine.
Les employés de l'hôpital n'arrivent pas à identifier le mystérieux tueur. Ils sont incapables de l'arrêter ou de prévoir qui sera la prochaine victime. Il frappe au hasard et sans avertissement. En un instant, le plus petit malaise devient fatal. Un garçon de salle remarque que la patiente Leah Matthews a de la difficulté à respirer. Il alerte les infirmières. Quelques heures plus tôt, pourtant, Leah Matthews était dans un état stable et semblait bien récupérée. Des infirmières se précipitent dans sa chambre. Mais il est trop tard. Leah Matthews est morte. Officiellement, on attribue son décès à une défaillance respiratoire, même si personne ne sait pourquoi les poumons et le cœur de la patiente se sont ainsi arrêtés de fonctionner subitement.
Si vous êtes fiévreux et que votre respiration est irrégulière ou votre tension élevée, on vous mettra sous perfusion pour rétablir votre tension artérielle et votre respiration. On va tenter de combattre ces symptômes. Mais si vous ne présentez aucun de ces symptômes et que vous mourrez subitement, c'est complètement anormal.
Aux soins intensifs, les médecins qui soignent John Powell demandent à sa femme de songer à le faire transporter à l'hôpital de soins de longue durée.
Dans l'état où il se trouvait alors, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il fallait donc l'envoyer dans un centre de soins de longue durée.
Patricia accepte finalement de faire transporter son mari. Elle ne sait pas que c'est l'établissement où meurent les patients subitement de cause inconnue. D'autres patients ayant subi d'importants traumatismes crâniens arrivent en même temps que John. Comme Leon Nelson qui y est amené après qu'une opération au cerveau l'ait plongé dans le coma. Sandra, sa femme, a entendu les rumeurs à propos de l'hôpital.
Je ne voulais pas qu'il soit transféré à cet endroit, car j'avais entendu dire qu'on n'en sortait pas vivant.
Avec le temps, l'état de Nelson se stabilise.
Je lui ai rendu visite aussi souvent que possible, et je lui parlais parce que les médecins nous avaient dit qu'il pouvait nous entendre. Je lui racontais ce qui se passait dans notre vie. Parfois, je lui lavais le visage, pas parce que c'était nécessaire, mais parce que ça me donnait quelque chose à faire. Nous lui parlions constamment.
La Shawn, la fille de Leon Nelson, qui est alors adolescente, est atterrée par l'état de son père.
J'étais la plus jeune et j'étais très proche de mon père. J'étais archi gâtée. Je n'avais qu'à lui dire « papa » et il me répondait « d'accord ». Je l'aimais beaucoup. Où qu'il soit, j'étais avec lui. Nous étions inséparables. C'était mon père et j'étais toujours assise sur ses genoux.
Sandra et Law Shawn demeurent au chevet de Leon et constatent que son état commence à s'améliorer.
J'avais espéré qu'il resterait à cet endroit le moins de temps possible, qu'il sorte du coma et qu'il rentre à la maison avec nous.
Je me rappelle lui avoir dit « Papa, je t'aime. Je vais partir maintenant. » Il m'a alors serré la main à 3 reprises. Ça m'a tellement émue. Je me disais qu'il allait peut-être s'en sortir.
Leon Nelson semble être sur la voie de la guérison quand la situation prend une tournure inattendue. Après un séjour de plusieurs mois à l'hôpital, une infirmière découvre qu'il a arrêté de respirer subitement.
Je croyais qu'il était dans un état stable et je n'avais donc aucune raison de craindre qu'il meure. J'avais même hâte de retourner le voir.
Le temps que l'infirmière appelle les médecins, et il est déjà trop tard. Leon Nelson est mort.
J'avais un enfant à la maison. Je ne savais pas comment j'allais faire sans son père.
L'état de Leon était pourtant stable ces derniers temps. Il avait montré des signes de rétablissement. Les médecins avaient même dit à sa femme qu'il n'y avait aucune raison de croire que son état allait empirer. Qu'est-ce qui a bien pu causer cette soudaine défaillance respiratoire?
La mort de Leon Nelson était inexplicable. Le personnel ne s'attendait pas à ce qu'il nous quitte. Ça a été tout un choc pour les personnes qui travaillaient dans ce service.
Leon Nelson allait mieux. Comment quelqu'un dont l'état s'améliorait a-t-il pu mourir aussi subitement sans présenter aucun signe avant-coureur? Sa mort inexplicable, de même que d'autres cas de défaillance respiratoire, convainc le personnel de l'hôpital que quelque chose ne tourne pas rond.
On a vérifié les rapports de soins pour voir qui avait donné la médication. Quelqu'un pouvait-il s'être trompé? On en est venu à la conclusion que ce n'était pas imputable à une erreur. Quelque chose de grave était arrivé.
Et c'est arrivé plus souvent qu'on ne l'a d'abord cru. Au cours de ses recherches, l'équipe découvre que Leah Matthews, Leon Nelson et Clyde Douglas ne sont pas les seuls à être morts subitement et inexplicablement dans ce service. Il y en a eu beaucoup d'autres.
Nous avons parlé du nombre de décès survenus dans notre unité de soins. Et nous nous demandions pourquoi nous avions eu autant de cas.
Qu'est-il arrivé à ces patients? L'hôpital est-il la proie d'une mystérieuse épidémie qui provoque des défaillances respiratoires?
Toute l'équipe était en émoi. On ne savait pas à quoi on avait affaire, mais on sentait bien que la situation était anormale.
Au cœur de cette série de morts subites, John Powell sort du coma. Il commence bientôt à réagir aux blagues des garçons de salle.
Un jour, je suis arrivée et Donald Harvey était là. Il a dit, « John, devine qui est venu te voir. La meilleure moitié de toi-même. » C'est la première fois que j'ai vu John sourire. C'était le premier de plusieurs sourires. Il a souri.
Après 6 mois d'hospitalisation, Powell montre peu à peu des signes de rétablissement.
On nous avait dit qu'il ne sortirait sans doute jamais du coma. Et voilà qu'il défiait nos prévisions.
Patricia Powell consigne tout ce qui arrive dans un journal qu'elle espère un jour lire à John quand il sera complètement rétabli.
John, nous avons eu une belle visite. Tu t'es servi de ta main gauche pour faire bouger les doigts de ta main droite. Tu fais de plus en plus de progrès. Je t'aime.
Mais comme pour de nombreux autres patients de l'hôpital, le miraculeux rétablissement de John va être subitement interrompu. Un matin, il se réveille, victime de saignements inexplicables et de défaillances respiratoires.
Le sang coulait de sa trachée et de la sonde gastrique. Il résistait à l'attaque, mais il avait perdu beaucoup de sang. Je n'ai jamais pu comprendre ce qui lui arrivait. C'était assez grave pour que nous envisagions le pire. On l'a envoyé dans un autre hôpital en ambulance parce que notre établissement n'était pas équipé pour faire face à cette urgence.
La défaillance respiratoire subite de John Powell prouve à nouveau que quelque chose ne tourne pas rond. Mais personne ne sait de quoi il s'agit. En 1987, les infirmiers d'un établissement de soins de longue durée de Cincinnati se mettent à craindre que quelque chose ne provoque la mort de leur patient. Ils meurent l'un après l'autre, sans montrer aucun signe avant-coureur. L'équipe de soins est confrontée à une mystérieuse maladie qui frappe au hasard. Les employés sont impuissants à protéger les patients auxquels ils se sont pourtant attachés. Les décès inexpliqués semblent devenir de plus en plus fréquents. Une infirmière vérifie l'état d'un patient qui a été examiné à peine quelques heures plus tôt et constate qu'il a cessé de respirer. Il semble que même si l'on surveille étroitement les patients, cela ne donne absolument rien. Leur mort est trop soudaine. Et le pire, c'est que les décès surviennent de plus en plus fréquemment.
Il y avait quelque chose d'anormal. Il n'était pas dans un état grave quelques heures plus tôt, car j'avais pris sa tension artérielle et sa température, et je lui parlais tout en m'occupant de lui. Et puis, tout à coup, dès le lendemain, je reviens et j'apprends qu'il est mort. Je me suis alors dit que c'était peut-être l'air que les patients respiraient qui les rendait malades.
L'équipe d'infirmiers a vu la mort de très près souvent dans le passé, mais jamais autant de décès causés par des défaillances respiratoires.
Sur le dossier du malade, on pouvait clairement voir qu'il allait mieux, qu'il avait même esquissé un sourire. Et puis, bang, le lendemain, il est mort. Tout cela apparaissait clairement dans le dossier.
Le tueur mystérieux emporte les patients à un rythme affolant.
Tout le personnel était préoccupé quand nous nous sommes rendus compte de tous ces morts. Auparavant, nous pouvions avoir un décès par mois. Et là, c'était 11 en 3 mois. C'était nettement au-dessus de notre moyenne normale.
James Hale et son collègue Donald Harvey, lui aussi assistant infirmier, ne s'expliquent pas davantage ce qui arrive.
Harvey et moi, on travaillait toujours ensemble. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Je l'ignore, Jim. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas normal. » Il m'a dit « Oui, mais tu sais, on est là pendant seulement un quart de travail. » D'accord, lui ai-je répondu, mais je travaille 12 heures par jour, au moins 3 jours par semaine. Et je sais que quelque chose ne va pas.
Le personnel n'a pas la moindre idée de ce qui peut causer ces morts mystérieuses. Et il n'y a pas que les décès qui soient préoccupants. John Powell a été victime de plusieurs étranges attaques, lui aussi, pendant son séjour à l'hôpital de soins de longue durée.
Quand John Powell a été victime d'hémorragie et de problèmes respiratoires, tout le monde en a parlé. Tout le monde cherchait à savoir ce qui se passait.
Et chaque fois qu'on l'envoie aux urgences d'un autre hôpital, il se rétablit comme par miracle. Patricia Powell n'a pas la moindre idée de ce qui ne va pas.
Comme il avait fait des progrès, je ne comprenais pas trop ce qui lui arrivait. En tout cas, j'ignorais ce qui provoquait ses problèmes.
Powell est renvoyé à l'établissement de soins de longue durée. Puis, quelques jours plus tard à peine, il retombe malade. Qu'est-ce qui est donc en train de le tuer dans cet hôpital?
Je ne suis pas docteur ni même infirmier, mais on pouvait voir son teint changer. Quelque chose n'allait pas. Quand les lèvres deviennent sèches, par exemple, on se dit qu'il y a peut-être les reins ou le foie atteint. Mais cela n'arrive pas soudainement comme ça, en une seule journée. Cet homme était malade, vraiment malade. On n'avait qu'à lui regarder les yeux et le visage. Quand il était aux prises avec ce mal, il blêmissait sous nos yeux. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ignorait de quoi il s'agissait.
Malgré les nombreuses attaques, Powell fait encore des progrès.
Je crois que le personnel était très surpris de ses progrès. À un moment donné, ils ont d'ailleurs commencé à l'appeler le miraculé.
Patricia consigne toujours tout dans son journal.
John, nous avons eu une belle visite. Tes progrès sont extraordinaires. Holly était avec moi. Tu l'as salué de la main. Je t'aime.
Quant aux infirmières, elles travaillent sans relâche pour aider Powell à retrouver l'usage, même restreint, de ses membres.
Nous avons mis beaucoup d'efforts pour qu'il puisse rentrer chez lui. C'était un projet possible dans son cas et il atteignait son but petit à petit.
Malheureusement, chaque pas en avant est inévitablement suivi d'une autre crise.
J'ai regardé sa peau. Elle était grise comme de la cendre. J'ai demandé à l'infirmière ce qui s'était produit. Elle m'a dit, « Jim, quelque chose de grave est en train d'arriver. Ils savent qu'il y a quelque chose d'anormal. »
Au cours des mois suivants, Powell sera victime de plusieurs crises respiratoires qui provoqueront son transfert à l'urgence chaque fois.
Il avait des hémorragies, puis il se rétablissait. Un peu plus tard, il était victime d'une autre crise, et ainsi de suite. Comme si c'était un cercle vicieux.
Peut-être Powell arrive-t-il à mieux combattre ce qui a tué les autres patients en raison de son âge et d'une meilleure résistance physique. Malgré tout, on ne parvient pas à trouver la cause de ces problèmes.
On pratiquait des analyses, mais on ne trouvait jamais rien.
À un moment donné, il est resté dans un état léthargique plus longtemps que d'habitude. Je ne voyais plus cette énergie qu'il avait sauvée les dernières fois.
Mais à la surprise de sa femme, Powell se remet encore une fois. Il commence même à se promener dans l'hôpital dans un fauteuil roulant.
C'était tout à fait inattendu. C'était merveilleux de voir ainsi quelqu'un faire ce qu'on n'aurait jamais cru possible et de voir sa famille se réjouir à l'idée qu'il allait bientôt rentrer à la maison.
Il était ravi et moi, j'étais fou de joie pour lui. J'en avais même des frissons et la chair de poule.
Powell fait tellement de progrès que les infirmières le préparent à quitter l'hôpital. Peut-être vaincra-t-il la mystérieuse maladie qui a tué tant d'autres patients après tout.
Nous étions tellement contents pour lui. Cela nous motivait à travailler encore plus fort. Après tout, il était encore jeune.
John, Mary, Jane et moi étions tous à l'hôpital avec toi. Mais nous ne t'avons pas vu beaucoup parce qu'il t'amenait dans tous les départements. Ergothérapie, physiothérapie, rencontre avec le podiatre, etc. Tu étais épuisé, mais nous avons eu le temps de te voir brièvement et d'échanger quelques sourires. Avec tout mon amour, Pat.
Puis, Powell a bientôt un compagnon de chambre du nom de Charles Ward.
C'était un des résidents que j'aimais le mieux. Un jour où je devais lui faire passer le test de la tuberculose, il m'a dit qu'il ne me laisserait faire qu'à la seule condition que j'aille lui acheter des caramels durs. Je suis descendue au magasin et je lui en ai acheté. Souvent, nous faisions ce genre de choses pour lui.
Comme beaucoup d'autres patients, Ward a commencé à éprouver des problèmes respiratoires. Les médecins et les infirmières mettent tous leurs efforts pour le réanimer. Mais Ward ne réagit plus.
Quand on voit ça, on est perplexe. J'ai fait mon rapport à l'infirmière et je lui ai dit, « Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'infirmière m'a répondu, « Je ne le sais pas. » Je me sentais comme dans des montagnes russes.
Pour les infirmières, la mort de Ward est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Je me rappelle m'être éloignée de lui et l'avoir regardé mourir. J'écrivais tout ce qui lui arrivait en même temps. Ensuite, je suis allée dans le salon des infirmières où je me suis littéralement écroulée.
À l'hôpital, un tueur mystérieux frappe au hasard avec une force mortelle. La situation est intenable pour les infirmières. Les patients ne sont plus en sécurité et il est impossible de savoir lequel d'entre eux sera la prochaine victime. Dans un hôpital de l'Ohio, le personnel soignant tente de découvrir la cause de plusieurs morts mystérieuses. Le décès de la dernière victime, Charles Ward, est identique aux autres. Sa mort est trop subite pour être normale.
C'était un autre de ces décès inattendus.
Les familles des patients commencent à s'inquiéter du nombre croissant de morts inexplicables. Pour sa part, Patricia Powell trouve ces décès très étranges.
En allant voir John, j'avais fait la connaissance de plusieurs autres patients et de leurs familles. Des personnes bien. Et nous discutions ensemble. Ces patients mouraient les uns après les autres. Cela a fini par m'affecter, parce que je ne voyais plus leurs familles. Ils n'étaient plus là. Et je me demandais ce qui avait pu causer leur mort. Je me disais aussi que John avait partagé la chambre de beaucoup trop de gens décédés.
Le personnel de l'hôpital sait qu'il n'a plus le choix. Il faut faire une enquête. On sort les dossiers de tous les patients décédés.
Ils se sont mis à l'ouvrage avec frénésie, comme un essaim d'abeilles. Ils recoupaient leurs rapports et tentaient de déterminer qui était là au moment des décès.
Quand les infirmiers se réunissent enfin pour faire le compte des morts mystérieuses, les résultats créent une véritable onde de choc dans l'établissement.
Quelqu'un a pris une feuille et s'est mis à noter les noms qu'on disait à voix haute. Une fois la liste terminée, il y en avait 11 ou peut-être même 16.
Il y a beaucoup trop de victimes pour qu'il s'agisse d'une pure coïncidence. La situation est grave. Les infirmières croient avoir mis le doigt sur quelque chose et elles en avisent leurs supérieurs.
Nous avons parlé de notre liste à l'infirmière-chef, puis à l'administration, au directeur des soins infirmiers, en fait, à tous les dirigeants de l'hôpital. Mais même si nous en avons parlé à tout le monde, on nous a répondu qu'il n'y avait aucune raison de se préoccuper de cette affaire.
Les supérieurs accueillent les soupçons des infirmières avec scepticisme. Même si de nombreux patients sont morts, rien, selon eux, ne permet de croire que la situation est suspecte. Mais les infirmières ne sont pas les seules à trouver ces décès louches. Patricia Powell trouve son mari étrange peu de temps après la mort de Charles Ward.
John avait un regard désespéré. Il ne cessait de faire osciller ses yeux vers le lit d'à côté.
John Powell sait peut-être comment Charles Ward est mort, mais il est incapable de le dire à sa femme. Il craint peut-être pour sa propre vie.
Je lui ai dit alors que j'avais l'impression qu'il voulait me dire quelque chose et que j'allais faire de mon mieux pour le comprendre. J'ignorais de quoi il s'agissait et je me sentais coupable de ne pas le savoir.
Ce que Patricia ignore, c'est qu'elle ne reverra plus son mari vivant. Le lendemain matin, l'assistant infirmier Donald Harvey signale à une infirmière que John Powell ne va pas bien.
Mr. Powell? Mr. Powell?
Il ne respire plus.
Mr. Powell? Mr. Powell, I'm not getting
a response. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le sauver, mais nous savions déjà qu'il ne s'en sortirait pas.
All clear?
On pouvait le voir partir peu à peu et il semblait en être conscient. Il pleurait. C'était un vrai battant. Je n'ai jamais pu oublier l'image de cet homme qui pleurait.
J'ai reçu un appel de l'hôpital. Le médecin m'a annoncé que John était mort une demi-heure plus tôt.
died about a half an hour earlier.
Je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il allait moins bien, mais je ne croyais pas qu'il mourrait. On m'a alors demandé si je voulais me rendre à l'hôpital pour le voir. Mais j'étais dans un état lamentable et je devais annoncer la nouvelle aux enfants. Je n'ai pas trouvé la force de me rendre à l'hôpital, du moins à ce moment-là.
Le personnel soignant prend très mal la mort de Powell.
Quand il est décédé, ça m'a donné un coup. Je le revoyais dans son fauteuil roulant, scellé d'un seul bras. Je me voyais l'aider à monter dans son lit. Les infirmiers étaient tous furieux.
On examine tous les relevés et documents médicaux du dossier de Powell pour s'assurer que sa mort n'a pas été causée par une erreur médicale.
Ils ont même vérifié qui lui avait donné des médications pour voir si quelqu'un avait pu faire une erreur. Et quand ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas, ils ont su que quelque chose était arrivé. Ils étaient furieux. La tension était si palpable qu'on aurait presque pu la couper au couteau. Quelque chose d'anormal lui était forcément arrivé.
La colère mène bientôt le personnel à passer aux accusations.
Tout le monde a été interrogé. On voulait parler aux infirmières du soir, à celles de nuit. Elles ont décrit exactement ce qu'elles avaient fait. On a vérifié l'inventaire des médicaments. Rien ne manquait. Rien ne semblait anormal.
Lorsque les infirmières s'aperçoivent que la mort de Powell n'est pas imputable à une erreur, elles fondent tous leurs espoirs sur l'autopsie qui sera pratiquée. Car en vertu de la loi, cette mort accidentelle doit faire l'objet d'une analyse approfondie. Peut-être saura-t-on enfin ce qui a pu causer cette mort mystérieuse. Le docteur Lehman, médecin légiste, pratique une incision dans le ventre de Powell. Il est immédiatement frappé par l'odeur d'amande qui s'échappe de la plaie. C'est quelque chose qu'il n'a connu que lorsqu'il était étudiant en médecine et qui l'a toujours terrifié. Cette odeur sera un facteur important dans l'affaire.
Il était très malade, mais même si on pouvait s'attendre à ce qu'il meure, il n'y aurait pas dû y avoir présence de cyanure.
Ce poison a pour effet d'empêcher les cellules du corps d'utiliser l'oxygène. Les individus empoisonnés au cyanure suffoquent littéralement. La présence de ce poison dans son organisme ne peut signifier qu'une chose: il y a un meurtrier dans l'hôpital. Et si les autres patients sont morts pour les mêmes raisons, il n'est pas que meurtrier. C'est un tueur en série. En 1987, l'équipe de soins d'un hôpital de Cincinnati est préoccupée par une série de morts mystérieuses qui se sont toutes produites dans le même service. John Powell, 44 ans, qui est miraculeusement sorti du coma, a par la suite été victime de saignements et de problèmes respiratoires. De fait, quelques mois après son arrivée à l'hôpital, il a été victime d'hémorragie et de défaillance respiratoire à plusieurs reprises. Au moment de sa dernière crise, il est mort en seulement quelques heures. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a décelé dans son organisme la présence de cyanure. Il a dû commencer par envisager l'hypothèse d'un suicide. Mais comment Powell aurait-il pu attenter à ses jours?
Monsieur Powell était incapable d'avaler. Il ne pouvait rien absorber par la bouche. La seule façon pour lui de se nourrir était par le biais d'une sonde gastrique.
Par conséquent, John Powell a été assassiné. Pour trouver un suspect, les détectives doivent interroger tous les médecins, infirmiers et garçons de salle qui ont eu accès à la chambre de John Powell. Un nom refait sans cesse surface, celui d'un homme qui a eu accès à toutes les victimes et qui travaille à l'hôpital depuis plusieurs années.
Une des infirmières a mentionné le nom de Donald Harvey. Il lui avait confié qu'il avait déjà fait l'objet d'une enquête du même genre à l'hôpital pour anciens combattants, où il travaillait avant.
Les infirmières ont commencé à soupçonner Donald Harvey lorsqu'elles se sont aperçues qu'il était de service presque chaque fois qu'un décès avait lieu.
Dans tous ces cas, nous avons constaté que le dénominateur commun était Donald Harvey. Nous avons abondamment discuté et nous nous sommes demandé s'il avait pu faire ça.
L'idée que Harvey ait pu tuer les patients est insoutenable.
J'étais sur la défensive et j'ai dit au groupe « Pourquoi dites-vous ça à son sujet ?» C'est un excellent garçon de salle. Il est méticuleux dans son travail, il est irréprochable. Je n'ai jamais cru que quelqu'un puisse intentionnellement s'en prendre aux patients. Pour moi, c'était inconcevable.
Mais personne ne peut contester les preuves.
Quand on m'a montré ce qu'on avait amassé, il aurait fallu que je sois aveugle pour ne pas voir que c'était vrai.
Harvey a également entendu parler des soupçons des infirmières à son égard.
Il arrivait à Harvey de blaguer avec le personnel et de faire des commentaires à ce sujet. Un peu comme pour montrer que ça ne l'atteignait pas.
James Hale, qu'Harvey se plaisait à appeler Big Daddy, se rappelle une conversation troublante qu'il a eue avec lui.
Je lui ai dit, quelque chose d'anormal affecte ces patients. Il m'a répondu, Big Daddy, il n'y a rien d'anormal. Les gens ici sont venus pour y mourir. C'est pour ça qu'ils sont ici. Je lui ai dit, peut-être, Donald, mais il y en a beaucoup trop. Il m'a alors dit, tu dois t'y habituer, Big Daddy. Et j'ai ajouté, non, on ne s'habitue jamais à ça. Il a dit, oh si, crois-moi.
Les policiers décident de faire leur petite enquête sur Harvey. Ils le convoquent à un test de détecteur de mensonges. Ils commencent par lui dire qu'ils sont au courant de la situation à l'hôpital et de son implication dans l'affaire. Après 4 heures d'un interrogatoire serré, Harvey craque sous la pression. Il avoue avoir tué John Powell.
Au cours de cette rencontre, Donald Harvey nous a avoué avoir versé du cyanure directement dans la sonde gastrique qui se rendait directement dans l'estomac de John Powell.
Il est difficile de concevoir qu'un homme tue les malades qu'on lui a confiés. L'hôpital est un sanctuaire. On accuse Donald Harvey de s'en être pris à des êtres sans défense. Au début, il déclare qu'il a tué Powell pour le soulager de ses souffrances. Mais sa version des faits change à mesure que l'interrogatoire se poursuit.
Lors de ses aveux, il a dit qu'il avait déjà donné du poison à John Powell en plus petite quantité. C'est pour cette raison sans doute que certains jours il se portait mal, alors que d'autres, il allait bien.
Donald Harvey est accusé de meurtre et mis en détention provisoire. Après son arrestation, la police obtient un mandat de perquisition de sa maison.
Nous n'y avons rien trouvé qui pouvait aider l'enquête. Il n'y avait pas de cyanure chez lui.
En l'absence d'autres preuves, il faudra laisser sortir Donald Harvey. Ce présumé meurtrier pourrait se retrouver en liberté. L'affaire repose entièrement sur ses aveux.
Si les aveux étaient rejetés par la cour, on serait confronté à un problème de taille. Nous n'avions toujours pas trouvé de témoin qui pouvait affirmer l'avoir vu verser du cyanure dans la sonde ni fait quoi que ce soit à John Powell.
Harvey ne s'est reconnu coupable que du meurtre de Powell. Mais les infirmières le croient responsable de plusieurs autres décès. L'enquête ne devra donc pas inclure que le cas de Powell.
Après l'arrestation de Donald Harvey, tout s'est arrêté. On n'en a plus parlé, il n'y a plus eu d'autres enquêtes. On n'a plus entendu parler de quoi que ce soit à propos de toutes ces morts suspectes. Pourtant, il ne fallait pas être neurochirurgien pour se rappeler qu'on avait donné une liste de patients morts de façon suspecte. Et que nous désirions que quelqu'un y donne suite. Il fallait que quelqu'un nous entende.
L'équipe de soins décide d'attirer l'attention des médias sur l'affaire. L'infirmière Huber appelle un journaliste local.
Je me rappelle être assise dans ma chambre, sur mon lit, enveloppée dans une couverture. Je tremblais tellement que j'avais du mal à parler. Je claquais des dents. C'est vous dire comment cet appel a été difficile à faire.
Les infirmières remettent au journaliste une liste de 18 personnes mortes dans des conditions suspectes. Elles lui donnent également les horaires qui montrent que Harvey était toujours de service au moment de leur décès. Le journaliste expose cette affaire en ondes et avance même que Harvey pourrait être un tueur en série. Loin des spots et des caméras, les enquêteurs tentent désespérément de trouver des preuves de la culpabilité de Donald Harvey dans tous ces meurtres.
Le bureau du coroner m'a envoyé les rapports de toutes les personnes mortes depuis peu. Il nous fallait pratiquer des autopsies de tous ces corps avant la fin de l'enquête. En fouillant dans les dossiers de ces individus, on pouvait constater qu'ils étaient très malades et que leur mort était prévisible. L'examen de ces dossiers n'était donc pas suffisant à lui seul.
La pression exercée par les médias convainc l'avocat de Harvey que les procureurs doivent resserrer leur étau autour de son client. Le suspect décide de passer de nouveau aux aveux. Pour s'éviter la peine de mort, il accepte de fournir des informations sur d'autres meurtres.
Il avait une mémoire remarquable. Il se rappelait quelle infirmière était de service, quel poison il avait utilisé et quelle avait été la réaction du patient.
Harvey déclare aux enquêteurs qu'il a étouffé Leon Nelson à l'aide d'un sac de plastique trouvé dans sa chambre. Comme Nelson était dans le coma, il ne lui a pas résisté. Ces révélations secouent les collègues de Harvey. Cette personne qu'il croyait bien connaître est en fait un tueur sans pitié.
La seule idée qu'on puisse étouffer quelqu'un pour le tuer est insoutenable. Pensez-y un instant. Qui peut faire pareille chose? Et en plus, il connaissait ces personnes qui l'étouffaient. Quand j'ai découvert comment Nelson était mort, j'ai dû abandonner mon travail.
Harvey aide ensuite les enquêteurs à recueillir des indices pour corroborer ses déclarations. Cachée derrière un cadre, se trouve une liste de ses victimes écrite à la main par ordre de date et de numéro de lit. Il a sans doute fait cette liste pour garder un souvenir de ses exploits meurtriers. Les autorités font exhumer 10 corps. Lors des autopsies, on trouve des résidus d'arsenic ainsi que du produit à récurer, confirmant ainsi les aveux de Harvey. Le 18 août 1987, Donald Harvey plaide coupable à 24 chefs d'accusation d'homicide et à un chef de voie de fait. Comme il ne peut être condamné à la peine de mort, il écope de la peine maximale, soit 80 ans d'emprisonnement. Le garçon de salle Donald Harvey a tenté d'expliquer pourquoi il s'en est pris à ses victimes en particulier.
Donald Harvey disait que les gens abandonnaient leurs proches dans cet hôpital sans jamais leur rendre visite, sans venir s'occuper d'eux, ce qui était faux. Il a menti, parce que dans le cas de Leon, on lui rendait visite tous les jours.
Harvey aurait pu continuer à tuer pendant plusieurs années si cela n'avait été d'un médecin légiste observateur et de la ténacité des infirmières. Même si plusieurs de leurs patients étaient déjà atteints de maladies terminales, elles étaient convaincues que leur mort était suspecte. Cette affaire a porté un rude coup à ceux qui y ont été mêlés.
Je ne suis plus jamais retournée dans un cadre hospitalier. À partir de ce moment-là, j'ai pratiqué ma profession d'infirmière d'une toute nouvelle façon. Je suis repartie à neuf en recevant une formation de superviseur, et c'est ce que je fais depuis.
Suite à la mort tragique de John Powell, un tueur en série a pu être arrêté.
Je crois que la mort de John a joué un rôle considérable, en ce sens qu'elle a empêché que d'autres patients ne soient tués. Je pense à cela souvent. D'une certaine manière, John était un héros.